au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Claude Fournel.
Mardi 7 octobre, à l'émission aujourd'hui, on aura l'occasion de s'entretenir avec Steve Garceau, représentant de l'APTS. Il sera question d'une pétition réclamant une action du gouvernement là, pour renforcer la rétention de personnel en santé en région éloignée. Avec Jacques Plante, on va souligner le 40e anniversaire de CFNJ. Oui, CFNJ célèbre ses 40 ans aujourd'hui. Il sera question également de cette rencontre entre Mark Carney et Donald Trump. Christian Goulet sera avec nous. Il est maire sortant de La Valterie en pleine campagne électorale. On va parler aussi à Nicolas Leduc Lafantaisie, représentant syndical des fonctionnaires provinciaux. On va parler des coupures gouvernementales qui commencent à se faire sentir dans la Naudière. Également, Sipi Flamand, chef du conseil des Atikameks de Manawan, avec qui il sera question de la route de Manawan. Mais pour débuter, il n'y aura pas d'agrandissement du dépotoir de Saint-Thomas dans la MRC de Joliette. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui. La Commission de protection du territoire agricole vient de statuer. Pierre Jubainville a parlé un peu plus tôt avec le maire de Saint-Donat, André Champagne, qui est déçu.
J'ai reçu l'avis le 30 septembre 2025. J'en ai pris note. Puis, regardez, je respecte la décision de la CPTAQ. C'est ça qu'il y en est, M. Jubainville.
Est-ce que vous pouvez nous élaborer les motifs qui sont évoqués par la commission pour dire non?
Ah, les autres, les motifs comme tels, il y avait peut-être moins d'impact sur le côté de Sainte-Geneviève-de-Berthier que sur le côté de Saint-Thomas. Mais regardez, les moins d'impact comme tels, à ce que je sache, les déchets que vous les mettiez à Saint-Thomas ou à Sainte-Geneviève-de-Béthier, il va toujours avoir la même problématique. Il pourrait y avoir des odeurs, mais regardez, ça n'appartient pas. Et l'impact va se faire plutôt sur le côté financier chez moi à Saint-Thomas.
Justement, ça veut dire quoi pour les citoyens de Saint-Thomas?
Pour les citoyens de Saint-Thomas, là, aller jusqu'en 2032 actuellement, il n'y aurait pas de problème, on va vous dire... L'entente doit être respectée sans problème, mais après 2022, moi, vous dire, c'est en moyenne, ça a été calculé. J'avais demandé à ma directrice générale du temps de faire un peu un topo de ce que ça pourrait nous coûter si on perdait le site d'enfouissement ou tout simplement qu'il n'avait pas lieu. En moyenne, c'était entre 15 et 20 cents du 100 $ d'évaluation qu'on perdrait en retombée pour Saint-Thomas.
L'UPA...
Qui coûterait à mes citoyens, soit dit en passant, plutôt.
Oui, c'est ça, c'est des citoyens qui absorberaient
le manque à gagner. Oui, parce que je vais vous dire, à Saint-Thomas, nous autres comme tels, les déchets ne nous coûtent rien. Je vais vous dire, c'était dans l'entente du temps qui avait été signée avec la mairesse, Mme Drouin, et ça a été perpétué ensuite de ça avec M. Vincent, M. Corriveau, et moi-même, j'ai pu en bénéficier. Je vais vous dire, c'est un site qui est entretenu d'une façon impeccable, et ils ont toujours respecté leur entente, puis je m'attendais à ce que la nouvelle entente ce soit d'une façon agréable, mais regardez, ça ne nous appartient plus maintenant. À partir de 2032, tout va bien.
Mm-hmm. Les opposants à l'agrandissement n'en voulaient pas à cause des odeurs et du transport, hein, je pense.
C'est un peu ça, M. Jubainville, regardez, en quelque part, là, c'est chez moi, on m'a toujours dit que dans l'impact comme tel, on n'est pas capable de faire d'omelette sans croiser d'œuf. C'est un site d'enfouissement. C'est pas une usine de chocolat. C'est une usine qui est bien une usine. C'est une entreprise qui enfouissait les déchets de Saint-Thomas, de la Naudière. Je crois que ça représentait, si je ne m'abuse, 54 MRC. C'est un impact qui va être majeur pour nous dans la Naudière.
La MRC, justement, avait stoppé temporairement là, le règlement et la nouvelle date d'adoption devait avoir lieu en 2026. Avez-vous eu des contacts avec la MRC?
Nous n'avons pas eu de contact comme tel. On attendait la décision de la CPTAQ avant de se prononcer. Puis depuis ce temps-là, regardez, là, la MRC était favorable au site d'enfouissement, tout comme nous. Au moment où La nouvelle est tombée. J'ai pas rencontré M. le préfet. On s'est pas parlé depuis 7 ans. J'espère pouvoir avoir l'opportunité de le faire prochainement. Voyez-vous, dans les retombées, c'était 34 MRT et 150 municipalités que le site touche.
Et beaucoup de la région de Montréal, je crois.
Hein? Regardez, c'est 20%. Le monde qui nous disait que c'était 35, 40, puis 48%. Regardez, avec les faits qui m'ont été rapportés de bonnes sources, c'est 20% des déchets qui venaient de l'extérieur, qui faisaient combler le site d'enfouissement. Puis c'était 1 million de tonnes par année. Qui était l'entente qui était encore respectée pour les nouvelles années à venir, mais regardez. Mais avec les retombées encore plus qui auraient été plus agréables pour nous avec les nouvelles ententes. Au fait que d'être temps, on avait eu un document qu'on avait reçu de la MRC d'Autré, qui aucune municipalité d'Autré voulait avoir le site d'enfouissement comme tel. Puis, tandis que nous, à Joliette, regardez, on l'avait accepté de bonne foi, de bonne grâce. Regardez, là, c'était que faut des retombées économiques, oui, mais surtout, c'était un lieu que, avec toutes les installations septiques qu'il y avait pour recevoir Saint-Thomas et les 150 autres municipalités, ça n'était pas un problème.
Bon, voilà, c'était le maire sortant de Saint-Thomas, André Champagne, là, qui est bien déçu là, de ne pas recevoir un agrandissement là, du site d'enfouissement de déchets du côté de Saint-Thomas. Ça risque de faire l'affaire d'une bonne partie des citoyens de Saint-Thomas là, qui étaient totalement opposés à ça. Mais à quelque part, il va falloir les enfouir à un moment donné. À quelque part, ces déchets-là, maudits déchets, c'est que on malgré toute la récupération qui se fait depuis nombre d'années, ben là, on fait face à un problème aussi de sur-emballage. Alors, des déchets, il y en a de plus en plus. Puis si c'est pas là, à Saint-Thomas, ben ça va être ailleurs au Québec. On peut bien comprendre, là, pas chez nous, je veux pas avoir ça dans ma cour, mais il va bien falloir les enfouir à quelque part, ces déchets-là. Il est 16h13. Dans un moment, Sibi Flamand, le chef du conseil des Atikamekw de Manawan, sera question de la route de Manawan.
Amateurs de plein air, c'est encore le temps de profiter de la pêche journalière à l'auberge La Barrière. Jusqu'au 19 octobre, venez taquiner la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et même la golden. L'auberge La Barrière, c'est une pourvoirie 4 saisons où la nature vous attend, été comme hiver. Réservez votre journée de pêche dès maintenant au 450-884-5748 ou rendez-vous au 1000 chemin du Club de la Barrière à Sainte-Émilie-de-l'Énergie. Auberge La Barrière, l'endroit idéal pour décrocher.
À la recherche d'un emploi dans Lanaudière, le couvoir Ramsey à Saint-Félix-de-Valois recrute 2 journaliers de remplacement. Horaires variables de jour et soir pour remplacer les postes réguliers. Possibilité d'accéder à un poste permanent. Salaire $26.41 l'heure avec des perspectives d'avancement. Nous sommes également à la recherche d'un étudiant pour travailler les fins de semaine, les soirs à l'occasion. Intéressé ou besoin de plus d'informations? Présentez-vous avec votre CV au 390 chemin de Joliette, Saint-Félix-de-Valois.
Cette situation était évitable.
Les cordons d'alimentation et les rallonges électriques peuvent présenter un grand danger à la maison s'ils sont mal utilisés. Pour prévenir les risques d'incendie, vous devez, entre autres, dérouler complètement les cordons avant de les utiliser, éviter de faire passer les cordons et rallonges sous un tapis ou dans l'embrasure d'une porte, utiliser des cordons qui conviennent pour l'intérieur ou l'extérieur, vérifier que les rallonges aient le wattage adéquat pour les appareils avec lesquels elles seront utilisées. Mieux vaut prévenir qu'éteindre un feu.
Un message des services des incendies de Joliette, Saint-Charles-Borromée, Saint-Félix-de-Valois, MRC d'Autré et MRC de Montcalm dans le cadre de la semaine de prévention des incendies. Cet automne, le premier responsable, c'est vous.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Saint-Jacques-de-Montcalm, dépanneur Miguet, dépanneur Station Shell. À Sainte-Marie-Salomé, l'expert dépanneur. À Saint-Esprit, Intermarché Saint-Esprit. À l'Épiphanie, dépanneur Le Petit Aurel. À Repentigny, Tabagie Gilles. Et à l'Assomption, secteur Saint-Gérard-Magella, dépanneur Relie. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Écoute en direct actualités régionales, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Son X Plus Joliette est fier de vous accueillir au 58 rue Babi depuis 2005. Fondée en 1981, notre entreprise met à votre service de l'expertise en système de son, cinéma maison, audio multipièce, domotique, sécurité, caméra de surveillance, réseau informatique, téléviseurs et installations professionnelles. Nous offrons des solutions sur mesure conçues pour répondre aux besoins spécifiques de votre maison ou de votre entreprise. Faites confiance à Son X Plus Joliette, toujours prêt à surpasser vos attentes. SonXPlusJoliette.com.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Jersey, Sainte-Marie-Salomé, Saint-Cuthbert, Crabtree,
CFNJ, 99.1, 88.9.
Ici, la musique américaine est tellement taxée qu'on n'en joue pas.
La Naudière PM, Première Nation.
Il est 16h17, le Conseil des Atikameks de Manawan dépose un recours judiciaire contre le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour forcer à réaliser là, des travaux de correction et de sécurisation du chemin de Manawan. On sait que c'est une route hyper dangereuse et François Morin a eu l'occasion d'en discuter avec le chef du Conseil des Atikameks de Manawan, Sibi Flamand.
Alors, Sibi Flamand, la patience de la communauté a atteint ses limites concernant le chemin de Manawan, et là, le conseil a décidé de passer de la parole aux actes.
Effectivement, parce que je pense que ça suffit là, de tourner en rond, puis depuis plus de 30 ans, nous réclamons la réfection du chemin de Manawan, puis qui est notre seule voie d'accès vers les centres urbains. Puis en 2018, le gouvernement s'était engagé à agir, puis aujourd'hui, rien n'a été livré. Puis pendant ce temps, les familles risquent leur vie chaque jour qui passe sur cette route. Puis nous avions lancé un ultimatum resté sans réponse. Puis comme je disais, le temps des discussions est terminé. Puis c'est maintenant au gouvernement de passer à l'action.
Pour l'anecdote, je me souviens très bien d'une conférence de presse, la conférence de presse annuelle où on annonce les grands projets routiers. Ça s'est passé il y a 2 ans du côté de Joliette. Vous étiez présent, vous étiez pas content parce qu'évidemment encore rien n'avait été annoncé et depuis 2 ans toujours rien non plus.
En effet, tu sais, cette route met nos vies en danger tous les jours. Ça nécessite beaucoup de travaux, puis même le bureau du coroner a reconnu sa dangerosité. Une route qui tue, ce n'est pas une route, c'est carrément un échec de l'État.
Encore récemment, je pense qu'il y en a eu des accidents, et même on voit des photos sur les médias sociaux, là, même des ambulances là, qui se retrouvent dans des fossés.
Effectivement, même des ambulances qui prennent de bord, c'est vraiment préoccupant comme quoi nous devons encore utiliser cette route-là qui n'est pas sécuritaire là, pour les membres de la communauté de Manawan et encore moins les autres usagers, notamment les ambulanciers.
En bout de ligne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a des correctifs à apporter, bien sûr. On sait que l'assise comme telle, là, c'est de la pierre, mais est-ce qu'on peut penser à de l'asphaltage?
Ce qu'on demande, c'est que le gouvernement ouvre ses yeux, fasse des actions en conséquence, puis définir un plan complet de réfection majeure du chemin, puis ça dans un échéancier de 24 mois avec un budget identifié. Puis je pense que c'est nécessaire que le Québec fasse des actions en ce sens-là, puis on s'attend également à une véritable partenariat décisionnel, pas un comité consultatif symbolique. Là, nous voulons participer aux décisions, pas les subir.
Il n'y a pas seulement vous, il y a plusieurs municipalités de la Matawini qui décrit l'état de la route de Manawan, alors j'imagine qu'il sera assez aisé d'aller chercher des appuis.
Je souhaite que les autres municipalités aux alentours de Manawan puissent nous soutenir dans cette démarche-là parce que beaucoup de ces gens-là sont aussi utilisateurs de cette route-là, des villégiateurs lors de la saison de chasse. Et c'est nécessaire qu'ils puissent nous soutenir dans ces démarches-là.
On comprend qu'il y a une démarche judiciaire qui est en cours et ça risque d'être plutôt long. Est-ce qu'il y a déjà des dates d'audience ou on attend la décision de la Cour?
On attend la décision de la Cour. Nous on reste en attente pour la suite des choses. Puis on s'attend que le gouvernement du Québec s'active également de son côté pour entendre cette question-là que nous demandons en contrôle judiciaire.
Et compte tenu qu'il y a un échéancier électoral qui s'en vient, on a un bel argument là, pour faire bouger le gouvernement.
Le gouvernement du Québec, lui, reste un an au pouvoir. Je pense que c'est le temps qu'il fasse des actions pour répondre à la demande. C'est nécessaire que le Québec fasse ce qui est à faire.
À très court terme, est-ce qu'il y aura une rencontre avec la direction régionale du ministère pour tenter là, d'obtenir justement ce plan complet?
On a des discussions avec le bureau régional, mais c'est plus haut qui est-ce que c'est problématique. Donc, il faut que le nouveau ministre fasse des actions nécessaires de son côté, mais nous, on continue au niveau des démarches juridiques.
Sibi Flamand, le chef du conseil des Atikameks de Manawan. J'espère qu'on va finir par régler le problème de cette foutue route. Je suis encore allé cet été à Manawan. C'est une véritable planche à laver, cette route-là. Elle est hyper dangereuse. Il est temps que quelqu'un mette ses culottes. On s'en va prochainement en élection au provincial. Et là, j'imagine que j'espère qu'il y a un parti qui va mettre ça dans ses promesses électorales de faire dans ses priorités la réfection du chemin de Manawan. Je lance le message aux députés et aux candidats qui seront dans la circonscription de Berthier qui couvre le secteur de Manawan là. Écoutez, il y a une population là-bas qui se retrouve complètement isolé. Et quand on a des urgences, par exemple, prenez une ambulance de Manawan et faites-la descendre jusqu'à Joliette, vous pouvez pas vous imaginer à quel point cette route-là peut être un circuit excessivement dangereux pour l'ambulance, et non seulement l'ambulance, mais le patient qui est à bord qui se fait bardasser. Il est 16h23.
Lanaudière PM, politique provinciale.
Les compressions gouvernementales commencent à être ressenties dans Lanaudière. 87 fonctionnaires répartis sur le territoire Lanaudière-Laurentide-Outaouais qui perdent leur emploi. Et François Morin s'est entretenu avec le président du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec de la région, Nicolas Leduc-Lafantaisie.
Nicolas Leduc-Lafantaisie, vous êtes le président régional Laurentide, Lanaudière et Outaouais du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec. Nouvel épisode, si on veut, dans la saga des compressions budgétaires au niveau du gouvernement. Et là, on commence à avoir des chiffres là, dans la région.
Oui, tout à fait. Là, ça, on commence à avoir un portrait plus global de la situation. Là, on parle de 87 employés là, qui travaillent dans les ministères qui ont perdu leur emploi là, dernièrement.
Et on parle de différents ministères, là, si je comprends bien. Là, c'est pas tout au même endroit. Là.
Non, on parle principalement là, du ministère de l'Emploi, de l'Environnement. C'est des ministères là, très touchés là, au niveau de la région. On sait que d'autres ministères vont être touchés par ces situations-là, mais on ne sait pas encore où et quand.
On parlait récemment dans l'actualité de compression là au ministère des Transports, un ministère qui est quand même névralgique là au niveau de la région. On sait qu'il y a beaucoup de questionnements. Avez-vous des nouvelles de ce côté-là?
On sait qu'il annonce des coupures. Là. Le ministère a annoncé ces coupures-là. Ça va prendre plusieurs formes, mais malheureusement, ça a été annoncé par le sous-ministre. Mais on n'a pas encore vu de réelle compression. On sait que ça s'en vient, mais on ne sait pas quel secteur va être touché en premier, quel type de corps d'emploi va être touché en premier.
Et dans l'argumentaire que vous faites valoir là, par le biais du communiqué qu'on a reçu, c'est que la population du Québec s'accroît plus rapidement que le nombre de fonctionnaires, on va le dire comme ça. Donc, les services directs là, seraient affectés.
Oui, là, le gouvernement a beau prétendre là, qu'il n'y aura pas de perte de service. Là, on s'entend là, que c'est complètement utopique là, de penser que en coupant, comme par magie, aucun service à la population va être touché. Là. De ce qu'on voit présentement, c'est totalement l'inverse. Les délais de réponse s'allongent. Il y a des ministères, là, exemple l'environnement, qui font pratiquement plus d'inspections de ce côté-là. Fait que c'est quand même de la pensée magique du gouvernement de dire « on va couper de la paperasse ». OK, oui, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu'il dit en réalité? Là, c'est pas qu'il va couper de la paperasse, c'est qu'il va couper des services de proximité. Puis moi, mes membres là, sont très inquiets par rapport à leur avenir, puis sont très inquiets par rapport aux services qu'ils donnent à la population. Il y a un réel enjeu là, par rapport à tout ce qui se passe présentement. Ça fait des années qu'on se fait dire « ils coupent dans le gras, ils coupent dans le gras ». Moi, je vous dis, ils sont plus là, ils sont en train d'éplucher l'os. Et dans pas long, il va y avoir des ruptures de services très importantes.
C'est pire que l'austérité du gouvernement Couillard, selon vous?
C'est beaucoup plus agressif. Qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'austérité de la CAQ versus qu'est-ce que Couillard fait avec les libéraux. C'est plus insidieux. On balance des nouvelles. Puis là, après ça, on dirait qu'ils regardent comment ça réagit. Là, on avance présentement des chiffres d'à peu près 2000 personnes de coupées. La CAQ dit 5, 6 000, ils veulent se rendre jusque-là. À un moment donné, juste lancer des chiffres en l'air pour lancer des chiffres, là. Il y a des gens qui donnent des services de proximité, là. Les fonctionnaires que moi, je représente, là, c'est pas des gens dans le haut de la pyramide, là. C'est les gens dans la base de la pyramide. Puis mes membres se questionnent sérieusement, dire, ils vont-tu être capables d'éponger 13 milliards de déficit en coupant des salaires de 50 000? Ça, c'est directement des attaques dans la classe moyenne. Pendant qu'ils coupent des fonctionnaires, mais ils ont rajouté plus de 8400 cadres au Québec. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Qui vont gérer s'il n'y a plus personne à un moment donné en bas? On rajoute des Top Guns. Combien ça nous coûte, ça? Ils rajoutent des conseils d'administration un peu partout. Combien ça nous coûte, ça? La CAQ a fait des mauvais choix sur toute la ligne, puis aujourd'hui, ben, ils cherchent les boucs émissaires. Puis c'est vieux comme le monde de s'en prendre aux fonctionnaires.
On entend sur la place publique plein de représentants syndicaux comme vous, plein de présidents de syndicats comme vous, qui dénoncent la façon de faire du gouvernement. Selon vous, est-ce que le public doit réagir lui aussi parce que c'est lui qui, en bout de ligne, ne recevra plus les services?
Moi, je pense que la population, malgré que ça semble silencieux, réagit parce que le gouvernement Legault, au niveau des intentions de vote, il monte pas, il descend. Et même son propre parti commence à critiquer son leadership. Fait que ça, c'est tout des signes d'un gouvernement usé, qui a des politiques usées, puis ça va sûrement paraître à l'automne de 2026 aux élections.
Nicolas Leduc, La Fantaisie, qui est président du syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec dans la région de la Naudière, avec qui François Morin s'est entretenu un peu plus tôt.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Ouais, tout d'abord, parlons de Joliette. Il y a eu accident un peu plus tôt, route 131, direction nord, à la hauteur d'Antonio Barrette. Là. Ça a été déplacé, là, mais c'est quand même assez lourd dans le secteur. La métropolitaine, oui, pour Charles de Gaulle, je regarde, ouais, c'est assez dense là à l'approche de l'avenue Marien et ça le demeure jusqu'à la hauteur du pont d'étagement du CN. Traversée quand même assez facile vers la rive nord. Repentigny, on circule sans problème. Pont Le Gardeur, accès facile autant par Sherbrooke que par Notre-Dame. La 25 nord, c'est un peu dense, jonction de la 440. Sinon, on traverse aisément vers l'île Saint-Jean et Terrebonne. Pont Sophie-Masson, ça va bien finalement. Autoroute 640 entre la 25 et la 40. Direction ouest, c'est facile. En direction ouest, un peu dense. Secteur de la montée des Pionniers. Les nouvelles dans un instant.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Bingo! La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Avec tout ce qui se passe, je veux acheter local, mais je sais plus trop où chercher. On avait un bottin avant, mais là, ça fait longtemps.
Il existe toujours, tu le reçois encore par la poste, et maintenant, il y a aussi le site web notreentourage.ca. Un site clair, facile à utiliser, avec seulement des entreprises locales. Ton prochain raccourci préféré pour acheter près de chez toi.
L'Association des pompiers de Saint-Jean-de-Matha vous invite à un super party trad le 17 octobre dès 20h. Au programme, les cuillères à carreaux et les campagnards. Une soirée festive à ne pas manquer. Les billets sont en vente dès maintenant au 450-803-5232. Un party trad à ne pas manquer le 17 octobre dès 20h au Centre culturel de Saint-Jean-de-Matha.
C'est le Festival de la galette de Sarrasin de Louisville. Plusieurs spectacles, dont Graveauport, les Cousins Branchaud, Laurent Saint-Martin et la traditionnelle Parade. Jusqu'au 12 octobre, Louisville vous attend. Infos et billets au festivalsarrasin.com.
Amateurs de plein air, c'est encore le temps de profiter de la pêche journalière à l'auberge La Barrière. Jusqu'au 19 octobre, venez taquiner la truite mouchetée, la truite arc-en-ciel et même la golden. L'auberge La Barrière, c'est une pourvoirie 4 saisons où la nature vous attend, été comme hiver. Réservez votre journée de pêche dès maintenant au 450-884-5748 ou rendez-vous au 1000 chemin du Club de la Barrière à Sainte-Émilie-de-l'Énergie. Auberge La Barrière, l'endroit idéal pour décrocher.
Pour vendre votre propriété, 450-935-3228. Avec l'équipe Paradis, c'est simplement efficace. Courtier immobilier, Proprio Direct.
16h32, Pierre Jubainville est là pour les nouvelles et en dernière heure. Pierre, on a appris que les négociations sont suspendues entre le gouvernement et les deux fédérations de médecins.
Oui, la Fédération des médecins spécialistes a fait savoir cependant que les négociateurs du gouvernement sont retournés valider leur mandat, mais que les négociations se déroulaient jusqu'à maintenant assez bien. Questionné par les journalistes, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a été avare de commentaires.
Moi, j'ai dit que je ferais aucun commentaire pendant la médiation.
Oui, mais là, c'est sur pause, il n'y en a plus de médiation.
Bien, ça peut être sur pause, mais il est encore une médiation.
Et maintenant, scène régionale, le dépotoir de Saint-Thomas qui ne sera pas agrandi.
Oui, c'est quand même une grosse nouvelle. C'est la Commission de protection du territoire agricole qui a statué, qui dit non à la firme Dépôt Rive-Nord pour son projet d'expansion. La filiale de BI pourrait toujours établir une cellule d'enfouissement du côté de Sainte-Geneviève-de-Berthier, mais dans la MRC de Dautré cette fois-ci. Le maire de Saint-Thomas, André Champagne, est déçu.
Les autres, les motifs comme tels, il y avait peut-être moins d'impact sur le côté de Sainte-Geneviève-de-Berthier que sur le côté de Saint-Thomas. Mais regardez, les moins d'impact comme tels, à ce que je sache, les déchets que vous les mettiez à Saint-Thomas ou à Sainte-Geneviève-de-Berthier, il va toujours avoir la même problématique. Il pourrait y avoir des odeurs, mais regardez, ça m'appartient pas. Et l'impact va se faire plutôt sur le côté financier chez moi à Saint-Thomas.
Scène internationale, rencontre au sommet entre Donald Trump et Mark Carney à Washington.
Oui, justement, il n'y a pas grand-chose encore de sortie de cette réunion. Ce qu'on dit, c'est que le président américain semble très heureux. Il parle même d'une relation d'amour entre nos deux pays. Alors, il a dit que le Mark Carney ne sera pas déçu. Il va revenir très content de son séjour.
He is a very strong, very good leader. He's a nice man, but he could be nasty. He is a world-class leader. He's a man that knows what he wants.
Les contrôleurs routiers pourraient revenir, Pierre, très bientôt là, sur les routes.
Oui, on sait qu'il y a eu plusieurs accidents mortels impliquant des camions poids lourds. Le nouveau ministre des Transports, Jonathan Julien, assure que c'est une priorité pour le gouvernement. Il entend leur permettre d'utiliser un pistolet à impulsion électrique ou encore même une arme à feu, selon les recommandations des experts qui vont être consultés.
Mais le principal point dans les recommandations, c'est celui d'outiller correctement nos contrôleurs routiers face aux risques dans leur travail. Et pour moi, c'est clair, il y a deux options. Il y a le taser, puis il y a l'arme à feu. Et on doit se positionner.
Les candidats à la mairie de Lavaltrie se chicanent sur la place publique.
Oui, Lavaltrie, qui est une des rares villes où l'équipe du maire sortant est confrontée à de l'opposition. Christian Goulet sollicite un troisième mandat. Il doit défendre son bilan, alors que l'équipe de son adversaire, Joël Latour, prône un changement dans la gestion de la ville. La réplique du maire sortant.
Il ne faudrait pas oublier que les dernières statistiques en vitalité économique du Québec, hein, Lavaltrie est passée du 320e rang au 128e rang en vitalité économique. Et Également, on a eu notre vérificateur indépendant de la ville qui fait la vérification des livres. Et publiquement, ça a été très clair. La ville de La Veltrie est en très bonne situation financière.
Scène fédérale, maintenant, le Bloc québécois qui attend le gouvernement de pied ferme avec son budget.
Oui, le budget qui sera présenté à l'automne plutôt qu'au printemps. Les libéraux ont annoncé qu'ils changeront le calendrier budgétaire en conséquence. Une chose est sûre, l'opposition bloquiste attend de pied ferme ce budget. Le député de Joliette-Manawan, Gabriel Sainte-Marie.
Parce que là, présentement, le directeur parlementaire du budget à Ottawa, il dit la situation déjà là est catastrophique avec les baisses d'impôts que le gouvernement a fait, avec l'abandon de la taxation des géants du web, ainsi de suite. Là, le gouffre se creuse. Mais si on se fie à ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant, et François Blanchet, le chef, l'a dit, il va avoir tous les députés du Bloc qui vont voter contre le budget. Parce que nous, la règle est claire et simple. Si c'est bon pour le Québec, on est pour, sinon on est contre.
Ben merci beaucoup Pierre Jubinville, puis oui, bon 40e, c'est FNJ 40 ans, on va reparler avec Jacques Plante tout à l'heure, qui a vécu dans une commune avec les animateurs de CFNJ à l'époque.
Au 99.1, 88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Claude Fournel.
CFNJ 99.1.
Lanaudière PM, politique municipale.
Ouais, comme le collègue Pierre le disait tout à l'heure, La Veltrie est l'une des rares villes dans Lanaudière où l'équipe du maire sortant est confrontée là à de l'opposition et Christian Goulet sollicite un troisième mandat et doit défendre son bilan alors que l'équipe de son adversaire Joël Latour prône un changement dans la gestion de la ville. Et Régent Turgeon a fait le point et a rencontré le maire Christian Goulet.
Il reste encore beaucoup à accomplir. On a des grands projets, des projets autant pour la communauté que des projets en infrastructure. Parce que d'offrir une qualité de vie aux citoyens, mais en même temps, il ne faut surtout pas négliger les infrastructures puis continuer à investir dans nos infras. Un des grands projets, 2026, on dépose dans un programme de subvention pour réussir à construire une salle communautaire qui manque beaucoup à La Veltrie pour desservir l'ensemble de nos organismes et des grands projets encore d'infrastructure.
Vous avez un bilan à défendre. Vous allez dans les rues, vous rencontrez les électeurs. Vous entendez quoi quand vous leur parlez de votre bilan?
Ce qu'on entend le plus, c'est La Veltrie, c'est beau. Les services offerts, les activités offertes aux familles, aux plus âgés, vraiment, c'est rendu une belle ville. C'est sûr que les gens voient pas nécessairement tout ce qui a été investi dans nos infrastructures qui coûte une fortune, mais en même temps, je dis toujours, mon équilibre, ma vraie nature, qui était notre terme, mais c'est vraiment l'équilibre entre le développement de La Veltrie, nos infrastructures, puis offrir des services aux citoyens.
Vous avez de l'opposition cette année. Ça, c'est différent de 2021.
Complètement. Et je vous dirais que c'est une bonne chose. Être élu par acclamation, c'est bien. Mais en même temps, en 2021, on a été élu par acclamation. Là, je trouve que c'est juste une bonne chose d'être reconfirmé, que les gens reconfirment leur confiance qu'ils portent en nous, mais en élection.
Votre adversaire dit vouloir une administration politique en mesure de respecter ce qu'il dit être la capacité de payer des contribuables. Vous répondez quoi à ça?
Bien, je vais répondre, c'est ça. Quand on dit mon équilibre, ma vraie nature, on investit des fortunes dans nos infrastructures. La densification qui s'est faite à La Veltrie, c'est exactement pour ça. Si on était resté un petit village, jamais on aurait pu investir autant dans nos infrastructures. Réparation de rue, ça coûte une fortune aujourd'hui. Et c'est ça, respecter la capacité de payer des gens. Si on était une petite ville, tout ce qu'on a investi, on aurait plus les moyens de vivre à La Veltrie. Et point de vue administration, faudrait pas oublier que les dernières statistiques en vitalité économique du Québec, hein, l'Institut de vitalité économique du Québec, La Veltrie est passée du 320e rang au 128e rang en vitalité économique. Et également, on a eu notre vérificateur indépendant de la ville qui fait la vérification des livres. Et publiquement, ça a été très clair. La ville de La Veltrie est en très bonne situation financière.
On vous accuse aussi d'avoir permis des développements de toutes sortes. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez contester?
Bien sûr, on m'accuse de beaucoup de choses. C'est sûr, quand on prend des décisions, vous savez, quand on fait rien, on peut pas être accusé de grand-chose, mais quand on prend beaucoup de décisions, c'est normal. Il y a des gens qui se sont heurtés dans leur façon de vivre parce qu'il y a des changements. Je vous dirais, les développements à La Veltrie ont été très réfléchis. Oui, ça prend de densification. Vous savez, aujourd'hui, de détruire des boisés pour construire des quartiers résidentiels, ça se fait plus. Là, ce qu'on fait, c'est de protéger, de tout faire pour protéger les boisés qui entourent la ville de La Veltrie, puis de faire une densification qui est réfléchie. Vous savez, les gens voient les immeubles qui se bâtissent sur Notre-Dame, mais dans notre réglementation, on protège notre centre-ville. On peut pas bâtir un bloc appartement de 3 étages dans notre centre-ville. C'est 2 étages, ça doit avoir des rappels. On a un plan architectural. Non, notre densification est réfléchie. Par contre, c'est normal que ça heurte les gens.
Êtes-vous prêt à faire face à ce qui pourrait être un conseil divisé si votre opposant a fait élire certains de ses membres? Et est-ce que ça pourrait entraîner une révision de vos priorités, justement?
Je vais vous dire, la plus grande qualité qu'on peut avoir, c'est d'avoir un bon leadership. Et un leadership, c'est de rassembler tout le monde et d'accompagner les nouveaux qui pourraient arriver. Et c'est ce qui est le plus important, c'est quand on est élu et qu'on s'assoit à la table, c'est d'être là pour les bonnes raisons et de rassembler tout le monde. Et quand les dossiers sont bien expliqués, je suis persuadé que tout le monde va prendre les bonnes décisions pour l'ensemble de la communauté.
Il y a eu beaucoup d'élections déjà par acclamation, là, depuis la fermeture des mises en candidature. Ça vous étonne, ça, que, justement, il y en a eu autant?
Non. Comme maire, évidemment, je le vis sur les réseaux sociaux. Vous savez, il faut presque aimer être détesté. Et même les gens, des fois, réalisent pas l'impact que ça a dans nos propres familles. Et quand on regarde et que les gens voient ça sur les réseaux sociaux, c'est d'une tristesse. Est-ce qu'on peut se rendre compte? Les gens ne veulent plus aller en politique. Puis pourtant, c'est une des plus belles expériences qu'on ne peut pas vivre. Par contre, je dis souvent, faut être fait fort.
Le slogan de votre adversaire est « Le temps du changement est arrivé ». Vrai ou faux?
Je vous dirais que le changement, il a eu lieu aux élections de 2017 quand j'ai été élu. C'est là qu'il y a eu le vrai changement.
C'était Christian Goulet, maire sortant de La Veltrie, avec qui le collègue Régent Turgeon a eu l'occasion de s'entretenir. Il est 16h43. Dans un instant, Jacques Plante.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les 3 jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer. As-tu ta carte?
Ils ont joué et gagné au Super Radio Bingo le dimanche 5 octobre. Gagne 80 $ avec la ligne DB. Joanne Leframboise de Pincourt. Une carte achetée à l'Intermarché à Saint-Esprit. Monique Large de Berthierville qui s'est procuré sa carte chanceuse au dépanneur Formule 1. Michel Gagné de Joliette. Carte achetée au dépanneur Michel Carab. Catherine Lebeau de Montréal qui s'est procuré sa carte gagnante au dépanneur Rondeau de Saint-Zénon. Yvon Baudry de Saint-Émilie. Il a acheté sa carte chanceuse au dépanneur RMRI. Gagne 4 000 $ avec une carte pleine achetée au dépanneur Rondeau de Saint-Zénon, Frédéric Pinault de Terrebonne. Quant à la deuxième chance, 600 $, elle a été partagée en 5. Joanne Hamel de Louisville gagne 120 $ avec une carte achetée au dépanneur du village de Saint-Cuthbert. Nancy Robinson de Saint-Émilie, également 120 $, une carte achetée au Famille Prix Jean-François Lafrance de Saint-Émilie. Manon Fortin de Saint-Zénon, une carte achetée au dépanneur Rondeau. Doris Prescott de Saint-Ignace de Loyola, grâce à une carte achetée au dépanneur Formule 1 de Berthierville. Et Guy Dupuis de Saint-Jacques, qui s'est procuré sa carte chanceuse au dépanneur Shell Saint-Jacques. Tous les dimanches matins à 10h05, gagnez gros dans le Super Radio Bingo de CFNJ. Toujours 5 000 $ à gagner avec les 3 jeux. Les cartes sont en vente au coût de 8 $ pour une feuille de 4. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ, section Super Radio Bingo. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Chaque hiver, des familles réalisent que leurs parents n'est plus en sécurité à la maison. Au Manoir La Tourelle, nous offrons des studios chaleureux avec repas et entretien ménager inclus. Visitez manoirlatourelle.com pour un milieu de vie chaleureux et sécuritaire.
Dans le cadre de ces activités Mission Relève, présentées par la CDEJ en collaboration avec Cédar Gestion, la famille Harvey, la Chambre de commerce du Grand Joliette convie les gens d'affaires à un Lunch and Learn au Jardin des Noix le 8 octobre prochain. Venez profiter des couleurs et des saveurs alors qu'une visite exclusive et une rencontre privilégiée avec les propriétaires sont au programme de cette magnifique journée d'automne. Inscription en ligne au ccgj.qc.ca.
La Clinique podiatrique de Joliette vous informe.
Vous souffrez d'une fasciite plantaire, d'un oignon, d'une verrue, d'une infection ou d'une fracture? Venez rencontrer mon équipe à la Clinique podiatrique de Joliette au 222 de la Visitation à Saint-Charles-Bromé. Nous offrons une gamme complète de services podiatriques tels que soins des pieds, orthèse plantaire, injection de cortisone, chirurgie mineure, radiographie ainsi que la podiatrie sportive. Renseignez-vous au 450-398-PIEDS, 398-7433, podiatrejoliette.com.
99.1 CFNJ, 40 ans dans Lanaudière à CFNJ. Voici le commentaire de Jacques Plante.
Salut Jacques.
Salut Claude, bonjour tout le monde.
Je suis vraiment content de te voir aujourd'hui parce que c'est la journée du 40e anniversaire de CFNJ.
Oui.
Et t'as fait ta part, puis pas à peu près pour CFNJ, en bâtissant cette radio-là dans les années 80. T'étais dans les premiers, c'est-à-dire deuxième personne à avoir animé l'émission du matin. T'avais succédé à Carole Coulombe qui faisait l'émission du matin.
Oui, de mémoire année. Claude, oui. C'est en
1986
que je suis arrivé à CFNJ.
Tu as été morning man, tu as été directeur de la programmation, tu as succédé à Madame Boss.
Oui, à Marguerite.
Notre chère Marguerite Lemire, c'est la maman de CFNJ, Marguerite, faut dire.
Ouais.
Et je le mentionnais tout à l'heure, tu as vécu dans une commune avec l'équipe de CFNJ de l'époque.
Oui, ben ça c'était une idée de fou un peu à l'époque, c'est-à-dire que, bon, je peux le mentionner, ma famille est du côté de Saint-Barthélemy.
Oui.
OK? Alors, je me tapais le millage tous les matins à partir de Saint-Barthélemy, de chez mes parents, et je m'en allais à Saint-Gabriel. À l'époque, on était sur la rue des Écoles.
Oui, oui. Hein?
C'était une école, d'ailleurs, qu'on habitait avec les studios. Bon, l'été, ça allait, mais l'hiver, c'était moins drôle un peu.
Ouais.
Et puis, on avait embauché des gens qui arrivaient de l'extérieur. Puis là, ils cherchaient un endroit où loger à Ville-Saint-Gabriel. Et moi, j'avais rencontré, c'était M. Bardier, je pense, hein, M. du Smoke Meat, là, il avait sa roulotte. Mm-hmm. On allait dîner là souvent. Et il me dit, j'ai une résidence sur la rue Saint-Jacques, de mémoire, c'était ça, Saint-Jacques. Et je lui dis, bon, on va te louer ça, nous autres, à la gang. Et c'est ça. Finalement, tout le monde s'est retrouvé...
C'est pour ça qu'on dit une commune où, en fait, vous étiez coloc toute la gang.
Oui, exactement. Toutes les, on vivait vraiment ensemble. C'est-à-dire que dans le jour, on était à la station de radio.
Ouais, ouais.
Et le soir, c'était le party à la maison, là.
Ouais, j'imagine que ça devait fêter solide.
C'était assez spécial. Mais c'est tellement une belle période. On était tous des fous de la radio. Comme j'ai lu les commentaires du collègue Richard Lelièvre aujourd'hui.
Ouais.
Il avait drôlement raison. J'ai vu tes commentaires aussi. Ouais, là, ouais. Une belle gang de fous. L'histoire se continue.
Ah oui, tout à fait.
Merci Marie-Pierre. En arrivant à la station, j'arbore mon chandail. J'ai dit à Justin tantôt, j'ai
croisé. On a des chandails, on fait faire des chandails de la CFNJ 40 ans dans la radio.
J'ai dit à Justin tantôt, je suis tellement content, j'ai 40 ans.
Ah! Ça a été toute une époque. Hey, on va parler de Donald Trump, suite à sa rencontre avec Mark Carney, a dit que M. Carney allait repartir de Washington pas mal content.
Oui, mais ça, il a dit ça, puis jusqu'à maintenant, le point de presse qui a été donné par Dominique Leblanc, qui est le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, ça dit rien.
Mm.
S'il pense qu'il est content, parce que là, ce que Leblanc a dit en point de presse, d'ailleurs, toute la journée, ça a été retardé. Hein. Moi, ce midi, j'essayais de suivre ça. Là. Carney devait arriver à la Maison-Blanche à 11h30. Il est arrivé à 12h10. Là, ça a été le show de Donald Trump au salon ovale.
Il y a toujours besoin de se donner en spectacle devant d'autres présidents ou d'autres premiers ministres.
Ah, puis là, Carney est assis, puis attend. Ouais. C'est le show de Trump. Après ça, il y avait un lunch de travail, semble-t-il. Et on nous avait dit, là, ce qu'on voyait sur les fils de presse, c'est que Dominique Leblanc devait faire tenir un point de presse à 15h30. Alors, je me suis dit, on va avoir des nouvelles. Mais là, pour l'instant, ça a été finalement vers 16h, juste avant que je m'en vienne à la station. Et il a dit, nous avons conclu des conversations détaillées, respectueuses et substantielles.
Mais c'est vide, ça?
C'est vide de sens. Il dit que finalement, nous avons discuté de l'importance de parvenir à une entente rapidement sur les secteurs. Bon, là, on mentionne l'acier, l'aluminium, l'énergie.
Non, il n'y a rien de neuf là-dedans.
Il n'y a rien de neuf en disant que les deux, il disait, bon, le PM, on parle de Carney, et le président ont donné des instructions aux ministres concernés des deux pays de continuer les discussions pour parvenir à une entente commerciale le plus vite possible.
C'est totalement vide.
Pouette, pouette, pouette.
Oui. Est-ce que Carney va revenir avec le sourire aux lèvres? J'en suis pas convaincu. Et d'autant plus que Trump demeure quand même toujours insatisfait de la concurrence dans le secteur de l'automobile et de l'acier.
Oui, oui. Il l'a dit carrément pendant son verbiage, son monologue au Salon Aval. On est en concurrence. Tu sais, moi, je veux que les gens bâtissent des véhicules. Il donnait l'exemple des véhicules automobiles chez nous. Puis Mark aussi, il veut de son côté qu'ils bâtissent des véhicules chez eux. On est en guerre commerciale.
Et là, on en discutait hier avec Pierre Paquette en disant que c'est certain que Pierre Poilievre va attendre Mark Carney de pied ferme à Ottawa.
Déjà, à la période des questions cet après-midi, là, oui. Il mangeait pas ses mots là-dessus.
Ben justement.
Et puis tous les partis d'opposition vont faire le chou avec ça parce qu'il revient avec rien. Moi, ce que j'ai de la misère à comprendre, Claude, quand on a annoncé la visite, je me disais, ça a-tu été planifié de longue date? On sait que c'est pas du côté de la Maison-Blanche, là. Ils sont sur le gun le matin parce que ça dépend ce que le bord du président sort du lit, là, du pied gauche ou du pied droit. Mais là, on a appris que c'était sur invitation du président américain.
Oui.
Alors, le président américain disait au PM canadien, viens voir. OK, monsieur, j'y vais. On va préparer des sandwichs midi,
ouais,
là.
Ouais, ouais, mais
viens manger
ça.
Des sandwichs avec moi.
Mais à part manger des sandwichs, pas de croûte, là, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est dit? Il n'y a pas grand-chose qui sort de ça. Peut-être qu'on en saura davantage demain.
Mais ce que je comprends pas, Claude, c'est qu'actuellement, là, à la Maison-Blanche, on est en shutdown aux États-Unis, là.
Oui. Hein?
Bon. C'est la petite guerre entre les démocrates et les républicains. Un.
Ah, pas juste une petite guerre, une méchante guerre.
Oui, mais on va voir là, s'ils vont le toffer le 35 jours. La dernière fois, ça avait été 35 jours dans le premier mandat de Donald Trump.
Oui.
Là, on va voir si ça va se rendre jusque-là. Il y a plein de gens qui sont limogés. Il y a des gens qui sont obligés de travailler sans salaire parce que c'est une question de sécurité aussi.
Oui.
Il y a la bande de Gaza. Hein? Ça brasse, là,
tout
aussi.
Tout à fait, oui.
Il y a de tout ce qui se passe au niveau de... quand tu veux envoyer les gens de, non pas l'armée, là, mais la garde nationale.
La garde nationale, voilà. À Chicago, entre autres.
Là,
oui.
c'est contesté.
Ben oui.
Alors, il y a tellement de dossiers chauds.
Aux États-Unis,
moi,
oui.
Si j'avais été invité à aller voir le président, je sais pas, mais j'aurais dit que j'avais le va-vite, là, quelque chose. Là. Non, mais tu sais, j'aurais dit, je vais aller là.
Ça règle tes problèmes, oui, puis après ça,
Ça va être noyé dans plein de dossiers. Ouais, celui du Canada, là, il va être glié aux oubliettes.
Mais justement, alors, peut-être qu'on va en apprendre un peu plus ce soir ou demain. Chose certaine, on risque de revenir là-dessus avec Pierre Paquette demain. Mais
tu sais, les discussions se poursuivent.
Pour l'instant, ça semble être vraiment une coquille vide. Là,
mais les discussions se poursuivent.
Merci beaucoup, Jacques.
Hey, plaisir.
Bon 40e.
Je te dis pas qu'on va faire un autre 40 ans, on va essayer d'en faire un bout. Salut.
Lanaudière PM. Santé.
Le Parti québécois qui parraine une pétition comptant 4500 noms qui ont été obtenus. L'Alliance du personnel professionnel et technique de santé et des services sociaux réclame donc, avec le Parti québécois, une action du gouvernement pour renforcer l'attractivité puis la rétention du personnel de santé dans les régions qu'on dit, entre parenthèses, éloignées. La région de la Lanaudière doit quand même composer avec d'importants défis. Un entretien qu'a réalisé François Morin avec le représentant national de la PTS dans la Lanaudière, Steve Garceau.
Alors, Steve Garceau, la PTS dépose aujourd'hui une pétition au gouvernement du Québec pour améliorer les soins en région. Est-ce que vous avez une idée là, du nombre de pétitionnaires?
Oui, en fait, effectivement, c'est une pétition là, qu'on a recueillie dans nos régions éloignées, là, c'est-à-dire l'Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Plus de 5000 signatures. Donc, c'est pour, effectivement, là, c'est dans le cadre de notre campagne, là, si on osait pour vrai avoir un réseau de la santé et des services sociaux de qualité. Puis on sait là, qu'actuellement, là, la crise dans les régions éloignées là, est omniprésente. Là, on manque de main-d'œuvre, l'accessibilité au logement est difficile, l'accessibilité aux différents services de garde pour les gens qui voudraient s'établir dans ces régions-là. Donc, ça crée vraiment des bris de services pour la population.
La Naudière n'est pas considérée comme étant une région éloignée, mais n'empêche qu'on a de la difficulté quand même à recruter de la main-d'œuvre.
On a effectivement de la difficulté là dans la Naudière. Là, on a deux contextes particuliers au sud. Là, tu sais, au sud, on a l'augmentation de la population avec l'étalement urbain, les jeunes familles qui s'installent, donc difficulté à donner l'ensemble des services à une population qui est grandissante. Puis au nord de la Naudière, ben c'est plus une population qui est vieillissante. Et là, à ce moment-là, on a de la difficulté à donner des services à la population qui a des besoins de plus en plus grands.
Est-ce qu'il y a une solution idéale? Parce qu'évidemment, là, même dans la Naudière, on vit avec deux réalités. Il n'y a pas de solution miracle, là.
Il n'y a pas de solution miracle, mais tout ça fait partie de choix politiques qui ont été faits dans les dernières années. Hein. On est encore aujourd'hui en contexte d'austérité. On le vit actuellement. On l'a vécu à l'époque de Jean Charest et de Philippe Couillard. Donc, à chaque fois qu'on diminue les impôts, comme ça a été le cas, si ma mémoire est bonne, en 2023, puis on fragilise le bas de laine des Québécois. Puis après ça, on se retrouve en déficit. Puis qu'est-ce qu'on fait? Ben on coupe. Mais on coupe dans quoi? On coupe pas dans Nordvolt. On coupe pas dans des investissements douteux de la coalition Avenir Québec. On coupe en éducation, puis on coupe en santé et services sociaux. Donc, il n'y en a pas de solution miracle, mais un bon point de départ, ça serait de maintenir le financement puis de bonifier aux besoins de la population sans donner quelques dollars en impôts puis réduire les impôts des citoyens.
Dans ce contexte-là, j'imagine qu'on attend de pied ferme le ministre Girard et son prochain budget.
Oui, définitivement. On l'a vu dans le dernier budget, là, au mois d'avril passé. Le gouvernement est sorti en disant « Inquiétez-vous pas, on maintient le budget en santé et services sociaux, même qu'on le bonifie. » Mais il y a une croissance avec l'inflation, avec les besoins populationnels normales. Puis nous autres, à la PTS, on l'a estimé à 5 % puisque le gouvernement a injecté de plus en santé dans son budget l'année passée. C'est 3 % Donc, il y a toujours un 2 % de manque à gagner qui était dans le dernier budget. Donc, le gouvernement va dire qu'il bonifie le budget, mais en réalité, il ne suit même pas la courbe des besoins populationnels au niveau des en santé et services sociaux.
Cet ajout, justement, cette amélioration des services et des soins en région, comme bien d'autres sujets, et compte tenu de l'impopularité du gouvernement, ça fera partie des questions de l'urne.
Ah, c'est définitif, c'est définitif. Le gouvernement puis les gouvernements antérieurs là dans les 20-25 dernières années là, ils ont attaqué notre filet social, hein, nos services publics qui est un fleuron québécois, qui est une richesse québécoise pour laquelle on est admiré mondialement. Le gouvernement s'est attardé à ouvrir des possibilités au niveau du marché des affaires, hein, parce que quand on diminue les services publics, ben ça s'en va au privé, puis qui dit privé dit profit. Donc il y a des gens en arrière de ça qui génèrent des profits à te donner des soins de santé. Puis nous autres, on est absolument contre ça. On veut des services qui sont publics, on veut des services qui sont accessibles à la population, puis pour lesquels on va avoir un accès équitable. Hein? Donc, quand on privatise les services de santé, services sociaux, ben c'est la population qui est en moyen, la population qui a des sous qui peuvent en bénéficier, puis on laisse tomber tous nos concitoyens qui sont soit vieillissants ou qui sont dans des situations plus vulnérables. Donc, moi, je suis fier du modèle québécois de santé, services sociaux et d'éducation, puis j'espère que le prochain gouvernement va être aussi fier que moi, sinon la PTS va être là pour faire entendre sa voix.
Voilà, c'était Steve Garceau, représentant de la PTS. On parlait là, de cette fameuse pétition là, qui réclame l'action du gouvernement là, pour renforcer la rétention de personnel en santé en région éloignée. C'est pas facile, et ça fait longtemps qu'on discute de ça, de pouvoir conserver du personnel en santé, d'amener ces gens-là dans les régions. Bon, voilà. C'est déjà tout pour celui qui vous parle. Ici Claude Fournel. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je salue et remercie nos collaborateurs François Morin, Pierre Jubinville, Régent Turgeon, Jacques Plante. Et manquez pas Nicolas Bellemare qui sera là dans un moment pour vous présenter le 5 à 7 trad, édition tout à fait spéciale puisqu'on va dévoiler la programmation de l'édition du 40e anniversaire de CFNJ de la série T-shirt, jeans, baskets qui sera présentée au mois de décembre et ça promet probablement là, une des meilleures programmations de toute l'histoire de cette série d'émissions. Je vous salue et on se retrouve demain à 16h. Bye bye!